Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année, bonne santé, joyeux Noël, bienvenue au podcast de rédaction de Game Info, et bienvenue à toi mon cher Mandraine.
Eh bien merci, bonne année à toi mon cher tyran.
Ouais, bonne année, wouhou. Les mecs qui jouent pas un peu la comédie. Bienvenue sur ce podcast spécial Perspective 2012, un podcast consacré à nos attentes sur 2012. Donc on va bien entendu parler de la PS Vita, de la 3DS, un peu de MMO aussi, beaucoup de jeux, vous verrez. Il y aura pas mal de jeux indépendants de mon côté. Ouais. En tout cas, donc, l'année 2012 qui s'annonce, je pense que tu seras d'accord avec moi, assez chargée.
Oui, très très riche, mais en même temps, avant la fin du monde.
Et donc, nous allons commencer par cette chose qu'on appelle le cloud gaming. Alors, je vous avertis tout de suite, c'est pas moi qui voulais en parler, hein, c'est Mordren. Je balance. Donc, online enfance en 2012. Ah bon, il y a quelqu'un qui attend ça.
En fait, déjà, le cloud gaming, on rappelle ce que c'est. En gros, le jeu est streamé sur votre PC ou sur votre télé à partir d'une petite boîte, d'un petit décodeur. Et ce qui tourne, c'est dans un serveur qui ne vous appartient pas. Donc ça s'appelle le cloud gaming, dont l'emblème est OnLive, en fait, qui est sorti en Angleterre récemment, en 2011, il n'y a pas très longtemps, avec un lancement plutôt pas mal fait. Donc on imagine bien que en 2012, ça va se diffuser vers l'Europe et sans doute en France. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu une évidence. Après, je ne sais pas du tout quel succès ça peut rencontrer, cette offre-là. Je pense que c'est toujours très intéressant, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas forcément les consoles en elles-mêmes.
Moi, j'ai juste une chose à dire là-dessus. Surveillez de très près ce qui se passe du côté de nos très chers fournisseurs d'accès. Parce que je suis sûr d'une chose. Si, genre, un jour, Orange sort son service de cloud gaming, vous pouvez être sûr que du jour au lendemain, tous ses concurrents, genre OnLive... Eh ben, ça va ramer chez les clients Orange. Genre YouTube et Dailymotion, comme par hasard, Orange a départ chez Dailymotion. Et ça marche très bien chez Dailymotion, les clients Orange. Ouais. Mais par contre, YouTube, il y a des ralentissements.
Ouais, c'est vrai.
Donc, surveiller ça de très très près, ça va être très drôle à voir.
En tout cas, oui, ce serait pas étonnant. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas si libre que ça au niveau de nos achats. Donc, bon.
Pour vous fournir ce genre d'accès, messieurs, dames, vous n'êtes que des chiffres qui vont permettre d'aller négocier avec les sites sur Internet. Donc,
ouais. Alors, en tout cas, OnLive, ça m'étonnerait que ça n'arrive pas en France un jour. Et pour que le système s'enracine bien au niveau des foyers, il faut que l'offre soit assez attractive et agressive au niveau des prix.
Donc... Bah, surtout quand tu vois les prix que pratique Steam.
Oui.
Non, parce que mine de rien, tu dis que... Pourquoi est-ce que je vais aller payer un abonnement alors que Steam me propose des jeux que je peux télécharger, je suis certain qu'il n'y aura pas de soucis techniques dessus, et que finalement ça me revient moins cher que l'abonnement en fait.
C'est vrai, mais sur Steam le jeu tourne sur ton PC, dans mon cas t'es pas forcément possesseur d'un PC énorme.
Attends, non mais ça c'est le truc, ça, je veux dire, un PC de 5 ans fait tourner les jeux d'aujourd'hui, hein, donc à part vraiment les gros jeux, tous les jeux tournent avec un PC de 5 ans.
Oui, non mais par exemple The Witcher 2, Battlefield 3.
Bah voilà, on parle des exceptions qui confirment la règle.
Oui, peut-être, sauf que t'as...
Et Battlefield 3, c'est pas un jeu que tu feras en cloud gaming, hein.
Oui, non.
Je veux dire, le cloud plus le online, ça va juste pas être possible.
Oui, en tout cas, oui, ça m'étonnerait, c'est clair. Donc voilà, après, il faut aussi dire que le cloud gaming est très très dépendant des connexions des gens. Et donc, faut faire attention à ça, dans le sens où la qualité vidéo ne sera pas forcément aussi impressionnante que sur un PC qui fait tourner le jeu de lui-même ou sur une console qui fait tourner le jeu. Donc, c'est vrai que là-dessus, qu'on n'est pas vraiment égaux au niveau de la qualité finale qu'on aura sur notre écran. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu rechigner à ce niveau-là, puisque je sais que, enfin, si t'as pas une connexion qui est constante et une connexion qui est assez, qui est pas excellente non plus, mais qui est un petit peu standard, je suis pas sûr que t'aies une qualité absolument géniale, quoi. Donc.
Pour rebondir un peu là-dessus, allez, je vais lancer faire ma madame Irma là. je vais prendre un gros risque. Une tendance de 2012, je pense, ça va être la généralisation de la disparition des DRM. La Chifou, je me lance dans un pari. Je pense, tu vois, avec... là, on voit le Humble Dim Bundle.
Ouais.
Il n'y a pas d'RAM là-dessus. Ils sont à 2 millions de dollars, quoi.
Mmh.
Et donc, moi, je fais ce pari-là que peut-être que les gens vont commencer à réfléchir et se dire que taper sur les clients, ça sert à rien.
Mmh.
Que les DRM, ça pénalise les clients et que finalement, quand on n'en met pas, bah, ça se vend la preuve de Humble Indie Bundle. Ouais, tout simplement.
Oui. Bon, en tout cas, ça serait beau. Mais
Ensuite, nous allons passer bien évidemment à la PS Vita.
Mmh.
Alors, la PS Vita...
va faire l'actualité de début du
je
mois.
Je veux pas faire ma langue de pute, Mandren, mais t'attends encore quelque chose de la PS Vita, toi?
Bah écoute, moi j'ai regardé avec attention le lancement au Japon. On enregistre le podcast une semaine après le lancement au Japon, grosso modo. Bah, l'air de rien, ça s'est plutôt pas mal passé. Avec 320 000 exemplaires vendus sur les deux premiers jours de commercialisation, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que bon, on a Uncharted Golden Abyss au lancement.
Gravity Days, il est sorti au Japon, bah.
Non. Non, non. Il y avait Everybody's Golf 6, et puis Ridge Racer, évidemment. Mais moi, personnellement, si tu veux, de tout ce que j'ai vu au niveau des gens qui dissèquent un petit peu la console dans tous les sens, avec notamment son système d'exploitation, moi, ce que j'aime beaucoup dans la PlayStation Vita, c'est son look. Elle est vraiment très classe, cette console. Après, je sais pas si je vais l'acheter day one. En tout cas, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment que j'aie gagné au loto. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qui me plaît dans la PlayStation Vita pour le moment, c'est son look plus que ses jeux. Et c'est clairement pas suffisant pour me faire acheter une console à 300 ou 250 euros. D'autant plus que c'est un investissement qui est très très lourd au départ, puisque les premiers prix viennent de tomber au niveau des jeux. En Europe, Uncharted sera disponible à 50 euros. Et les autres jeux seront à 40 ou 30 euros. Ça dépend un petit peu leur perspective. Donc c'est vrai que vous achetez une PlayStation Vita, mettons en modèle Wi-Fi seulement, donc 250 euros. Uncharted Golden Abyss, puisque c'est celui-là en gros que tout le monde va s'arracher, 50 euros de plus, ça fait 300. Vous achetez une carte mémoire, mettons 8 gigas, ça fait quoi, 30 euros? Un truc dans le genre. 8 gigas, c'est 40. Bon bref, vous arrivez très très vite au seuil des 400 euros. Et moi personnellement, pour un lancement de console, dépenser 400 euros, j'ai plus l'impression d'être dans une console de salon plus qu'une console portable. Donc ça me fait un petit peu mal au derrière, tu vois. Donc c'est vrai que la PlayStation Vita, je pense que je vais attendre un petit peu. Enfin, en tout cas, je sais pas si toi tu vois la PlayStation Vita faire un gros carton en Europe, mais c'est vrai que si on regarde les forums et les réactions au lancement japonais, on a vraiment pas mal de gens qui disent attendre la console. Alors c'est pas forcément des gens qui vont l'acheter le premier jour, mais c'est vrai qu'au niveau du ressenti, on a pas mal de gens qui disent que la console leur plaît, en tout cas. Donc,
ouais, non, mais ça, c'est des gamers qui disent ça.
Bien sûr.
Moi, je pense que la PS Vita, elle a un problème, c'est son prix. 250 euros, quoi qu'on en dise, pour beaucoup de gens, c'est une fortune.
Oui.
D'ailleurs, il me semble que c'était le prix de la PSP.
Oui.
On a vu le résultat.
C'est vrai.
Bon, après, c'est vrai qu'on peut dire, oui, le catalogue de la PSP, etc. Mais justement, regarde le catalogue de la PS Vita à sa sortie en Europe. Je veux dire, il y a Gravity Days, mais Gravity Days, c'est un jeu niche, quoi.
Non, mais soyons clairs, la
killer app... Il y a Uncharted, voilà, quoi.
Voilà, c'est ça. La killer app de la PS Vita au lancement, c'est Uncharted, et puis c'est tout. Mmh. Après, si on compare avec la 3DS, la PlayStation Vita, au moins, a une killer app.
C'est vrai.
Alors que la 3DS, au lancement, n'en avait pas.
Mais le problème, c'est que la 3DS, quand elle est sortie, elle est toute seule.
Exact. Ça.
Et là, la PS Vita, malheureusement, elle a sa concurrente directe qui est déjà partie et qui a tous ces jeux qui ont déboulé là. Il y en a encore d'autres qui vont débouler dans l'année.
C'est, vrai. C'est là où est le problème, à mon avis, pour la PlayStation Vita. C'est que, heureusement pour Nintendo, enfin, Nintendo a eu l'intelligence de baisser le prix de sa 3DS. Donc du coup, au niveau des prix, on a vraiment un gap de 80 euros. Et du coup, un gap de 80 euros, ça représente quand même deux jeux. Donc ça veut dire que pour le même prix, tu peux avoir une 3DS et deux jeux, alors que pour 250 euros, t'as une PlayStation Vita toute seule. Donc c'est vrai que bon, il va y avoir un problème là-dessus, mais il faut voir aussi qu'en Europe, en février 2012, au niveau de la 3DS, il n'y a pas grand-chose d'annoncé. Donc la PlayStation Vita va peut-être être un petit peu toute seule au niveau de, elle va peut-être être laissée un petit peu toute seule à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, enfin moi personnellement, je vois pas la PS Vita faire un carton monumental tout de suite. C'est sûr, évidemment, que les gamers vont se jeter dessus. Après, je pense que c'est beaucoup moins sûr que le grand public va... Enfin, je pense que c'est moins sûr, en tout cas, que la presse généraliste se jettera sur la PlayStation Vita pour faire ses gros titres, ça m'étonnerait. Ne serait-ce qu'une petite chronique, ça m'étonnerait. Alors que la 3DS, justement, on en avait parlé parce que c'est 3D, parce que voilà, c'est la nouvelle console Nintendo. La PlayStation Vita, je suis un petit peu moins sûr. Bon, après.
J'ai un peu peur du phénomène PSP, c'est-à-dire que il y a une presse qui va louer la performance technique, parce que c'est une performance technique, mais que au final, voilà quoi, ça va cheat et. Bon, en tout cas, on attend le gros des jeux. C'est vraiment là que ça va jouer. Si elle décolle pas, là, ça va vraiment être problématique.
Ouais. La dernière chose, c'est que Sony ne peut pas baisser le prix de la PlayStation Vita, alors que Nintendo pouvait le faire sur la 3DS.
Donc ouais, c'est pas le même matériel, c'est sûr.
Donc bon, maintenant on va passer à la 3DS. La 3DS qui, quand même, s'est bien relancée à la fin de l'année. Et à mon avis, va continuer sur sa lancée en 2012. Avec des jeux, avec un catalogue Nintendo qui va continuer à s'étendre, avec du Luigi's Mansion 2, du Mario Tennis, du Kid Icarus, un Professor Layton 5 aussi qui va sortir, et puis un Bravely Default que l'on a découvert au TGS 2011 et qui nous fait pas mal saliver quand même. Donc voilà, c'est vrai que en tout cas la 3DS, ça lui a fait beaucoup de bien de baisser de prix, ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir enfin ces killer apps arrivés. À savoir aussi que les Monster Hunter vont arriver aussi sur 3DS en 2012.
Ouais, non mais ça c'est la grosse sortie au Japon en tout cas.
Au Japon,
la grosse sortie c'est Monster Hunter. Hein, c'est,
Monster Hunter 3G est sorti et a déjà dépassé le million de ventes. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est vrai que ça c'est les gros jeux. En tout cas la 3DS, ça y est, je pense qu'elle est bien lancée. Alors bon, j'ai pas très envie de me lancer sur des conjectures au niveau
Alors non, mais par contre la question que je me pose, est-ce qu'à ton avis on va avoir un catalogue suffisamment consistant pour tenir toute l'année là, parce que je t'ai vu citer quelques jeux là, mais j'ai pas l'impression que ça va faire l'année tout ça quand même.
En tout cas ça a l'air d'être plus ou moins réparti sur toute l'année. Le problème c'est que c'est peu. Après, il faut pas oublier non plus que la plupart des jeux que je vous ai cités sont des jeux Nintendo. Et on croise vraiment les doigts pour que la 3DS ait quand même un petit peu plus d'apport au niveau des éditeurs tiers. J'espère en tout cas que ce regain d'énergie au niveau des ventes va motiver les éditeurs tiers à reprendre un petit peu leur développement sur 3DS. En tout cas, je l'espère. Il faut pas oublier non plus qu'il y aura Resident Evil Révélation qui va sortir, qui a l'air d'être un jeu plutôt ambitieux sur 3DS. Et puis il y a aussi les jeux qui seront disponibles sur le Nintendo eShop, notamment V, ce jeu indépendant qui va sortir sur 3DS et qui peut aussi aider à passer du temps sur la 3DS. Donc je me fais pas trop de soucis, parce que bon, il faut savoir que là fin 2011, on a que les gros jeux qui arriveront l'année prochaine, mais il est pas exclu qu'on ait aussi des surprises et de nouvelles annonces qui arriveront très bientôt. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis, sachant que l'E3 va aussi annoncer beaucoup de jeux qui vont sortir vers septembre octobre 2012. Donc voilà, je pense,
sachant que moi ce que j'attends surtout au niveau de la 3DS, c'est la 3DS Lite en fait. C'est moi très clairement je n'achèterai pas cette console tant qu'il y aura ce modèle là qui n'est clairement pas un modèle fini.
En tout cas, pour les jeux qui vont bientôt arriver, ça ne sera plus le cas, c'est très certainement. Et d'ailleurs, c'est assez étrange ce qui va se passer au niveau du lancement du second stick. En Europe, en tout cas, le lancement du second stick va se faire avec Resident Evil Révélation et pas Monster Hunter. Alors, je sais pas si Resident Evil...
Moi, ça m'étonne pas, hein, parce que... Pour t'expliquer un peu, ça m'étonne pas, parce que... Je veux dire, Monster Hunter, c'est pas une licence du tout populaire en Europe, alors que Resident Evil, si.
Oui, bien sûr.
Donc c'est parfaitement logique qu'ils aient zappé Monster Hunter, quoi. Donc
ouais, peut-être. Mais je suis pas sûr de toute manière que tous les joueurs s'équipent en second stick. En tout cas.
Non, mais surtout quand tu vois l'ergonomie du truc.
Ça a l'air pas si mal que ça. Hein. Ça fait juste gros et massif, mais. Moi personnellement, j'attends d'avoir vraiment un jeu qui nécessitera vraiment ce second stick pour peut-être me lancer, mais. Je sais pas. En tout cas, si deuxième modèle il y a, à mon avis, il sera annoncé à l'E3. ou dans un événement spécial Nintendo, mais pas en début d'année, en tout cas ça m'étonnerait.
Bah justement, tu parles d'événements Nintendo. Alors on sait que au niveau de la Wii U, il va y avoir des annonces très bientôt.
Oui.
Donc c'est un salon l'informatique très connu, comment ça s'appelle déjà? Le CES, oui, c'est ça. Donc il est vraiment un gros salon, mais c'est plus un salon high-tech en fait.
Ouais.
Donc
où la Xbox avait été présentée, la première Xbox avait été présentée d'ailleurs.
Et bon, alors on se pose des questions parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient aussi que la prochaine console de Microsoft allait être annoncée à ce salon-là.
Ouais, moi j'en
doute. Donc quoi qu'il en soit, la Wii U, alors la Wii U, qu'est-ce que tu en attends, mon cher Morwen?
Bah écoute, moi j'attends qu'on me montre vraiment des jeux et des applications du concept. Parce que moi, pour le moment, en fait, de ce qu'on en a vu, parce qu'il faut savoir qu'entre l'E3 et aujourd'hui, on n'en a pas vu plus hein, sur la Wii U. Il n'y a pas eu de communication sur la Wii U depuis. Et c'est vrai que pour le moment, moi, le concept est relativement flou et j'ai un petit peu du mal à voir ce qu'on pourra en faire sur des gros jeux, quoi. Sur les petits jeux, party game, je vois tout à fait, mais sur des jeux... comment dire, à gros contenu, j'ai du mal. Donc c'est pour moi ce que j'attends de la Wii U cette année en 2012, c'est que on me montre exactement à quoi ça peut me servir sur un jeu important, sur par exemple sur un Mario, sur un Zelda ou etc. Qu'on me convainque en fait que le concept est intéressant. Parce que moi pour le moment, je suis pas plus intéressé que ça en fait pour tout avouer.
Bah moi l'idée de tu vois de prendre ton jeu, d'y jouer dans ton j'ai pas envie de rester dans le canapé, je vais aller dans mon pieu et tout, je prends ma console. Donc moi ce que j'attends surtout c'est donc des précisions au niveau de genre les distances, est-ce qu'ils ont amélioré un peu le truc parce que vraiment ce qu'on avait lu à l'époque c'était genre une pièce et puis hop ça partait la connexion avec la console. Est-ce que ça va l'autonomie aussi du périphérique, est-ce que l'autonomie est bonne, etc. Donc il y a plein de questions comme ça que j'ai dans ma tête. Bon aussi c'est vrai que le concept, bon moi le concept à la base m'attire pas plus que ça, mais à la limite c'est pas plus grave que ça. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre ton jeu et d'y jouer dans ton pieu quoi. C'est vraiment ça.
Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment la feature qui va te faire acheter une Wii U? Je suis pas sûr. Mais voilà.
Donc, personnellement, les nouvelles manières de jouer, tu sais ce que j'en pense. Hein, voilà. J'en pensais pas grand-chose avec la Wii. D'ailleurs, je n'en pense toujours pas grand-chose. Mais avec la Wii U, donc j'en pense pas plus. Voilà quoi, c'est pas le truc qui va me faire acheter ça. C'est niveau filature, moi je le dis, la filature qui m'intéresse là-dessus c'est vraiment le côté tablette, je vais jouer dans mon canapé quoi.
Donc bon, après j'ai vraiment envie de voir ce que Nintendo a envie de faire de ces concepts là parce que bon, ils sont assez créatifs à ce niveau là donc mais après, est-ce que c'est pas l'accessoire de trop en fait, parce que enfin j'ai un petit peu de mal à voir ce qu'on peut faire d'autre que cette espèce de, en fait c'est l'équivalent du deuxième écran de la DS en fait.
Disons ça peut servir dans des jeux comme genre Beyond Good and Evil 2. D'ailleurs il paraît que c'est sur cette console là qui sortira, donc à surveiller. Mais bon c'est vrai que sur le papier bon il faut voir vraiment les capacités de l'écran etc. Mais bon on peut compter sur Nintendo je pense pour nous trouver des concepts.
Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, enfin moi je sais pas toi, mais moi je la vois bien débarquer pour Noël 2012. Alors je prends vraiment des.
Tu prends des risques hein, parce que moi quand je vois qu'à l'E3 dernier, on n'avait même pas, c'était un prototype quoi, clairement, c'était même pas fini la console, on sait même pas à quoi elle ressemble quoi, concrètement encore la console.
Ouais, ça ressemble vite fait au design d'une Xbox 360 en fait, un petit peu.
Bon, non, mais ça, c'est les délires que vous aviez avec mamie pendant E3, je vous laisse là-dessus.
Ouais, non, mais.
Moi, je trouve pas que ça ressemble à les 360, mais.
Ouais, bon. Je reste là-dessus. Enfin bon. mais moi, en fait, je vois mal Nintendo rater le coche de Noël, en fait. Parce que ça a toujours été une force très importante pour ses ventes. On a vu la Wii qui était sortie à Noël à cette époque-là. Et d'ailleurs, sur les trois territoires, dans l'espace d'une semaine. Je pense que la Wii U ne peut pas se passer d'une sortie comme ça. En tout cas, pour une console de salon, je trouve que c'est très difficile de sortir autrement que sur une période de Noël. Parce que, enfin, pour une console de salon, se lancer en mars. Ouais. Parce que moi, en fait, les deux portes de sortie, à mon avis, pour Nintendo, c'est soit Noël, soit mars. Puisqu'au niveau de ses lancements, c'est toujours à cet endroit-là. Pour moi, c'est clair que ça sera Noël. Et puis, Nintendo a tout intérêt à lancer sa console de salon bien avant les consoles next-gen. Je pense que, ouais, il faut que ça soit le plus tôt possible, en tout cas.
Justement, tu parles des consoles next-gen, et ben on va aborder le sujet parce que bon, il y a eu pas mal de rumeurs sur les l'annonce d'une nouvelle console Microsoft, donc au CES justement. Il paraît que du côté de Sony aussi, ça commence à bouger. Bon, alors moi, personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas du tout convaincu. Peut-être une annonce du côté de Microsoft à la limite. Et encore, moi, je parie plus sur le 3, par
Ouais, moi
exemple.
aussi. Ouais.
Mais en tout cas, moi, je pense que si nouvelle console il y a, je pense que ce ne sera pas avant Noël 2013.
Oui.
Ça me paraît beaucoup trop tôt. Enfin, remarque, tu me diras, Microsoft nous a habitués à dégainer très tôt. Donc, bon. Mais d'une manière plus générale, qu'est-ce que t'en attendrais? Est-ce que tu veux plus de puissance? Est-ce que tu en veux une plus grosse, etc.
Non, en fait, moi personnellement, je m'en fous de la puissance du moment qu'elle est bien utilisée. Parce que bon, là, en fait, au niveau des consoles qu'on a actuellement, au niveau de la 360 et de la PS3, on a déjà un socle de puissance qui est très important. Le
Moi,
seul
je suis pas
truc,
d'accord, mais
enfin, en tout cas,
on va savoir
qui est assez
après.
intéressant au niveau des ressources. Après, il y a souvent, enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont assez récurrents sur cette génération de consoles, à savoir l'aliasing, au niveau des ombres aussi. Après, il y a certains jeux qui sont maîtres étalons dans leur genre, je pense à Uncharted. Mais moi, ce que je veux, c'est que la puissance soit bien utilisée. En fait, personnellement, la puissance, on s'en fout un petit peu du moment que les jeux ont une identité, tu vois. C'est à la base, ce qu'on veut dans un jeu, c'est que le gameplay soit bon.
Oui,
C'est pas la puissance, quoi.
sauf que c'est pas là je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, la puissance, ça permet de faire beaucoup de choses. Portal 2, mine de rien, le jeu, on sent pas grand-chose, mais tous les trucs de physique avec le liquide,
Ouais.
ça, c'est des trucs qui ne sont pas possibles si t'as pas un... si on n'aurait pas les consoles qu'on a aujourd'hui, ce ne serait pas possible parce que c'est vraiment très pointu.
Ouais.
Et encore, je sais pas si t'as vu, mais s'amuser à repeindre tout un niveau dans Portal. Ton PC commence à ramer, tu vois. Enfin, t'as plein
Ouais.
de trucs comme ça. Je veux dire, pour moi, la puissance est indispensable
Ouais.
parce que ça permet de faire plein de choses. Et moi, justement, pourquoi j'attends je pense qu'il faut absolument que la nouvelle génération de consoles apporte de nouvelles choses au niveau de
Ouais.
la puissance, notamment au niveau de la RAM, parce que la RAM, ce n'est juste plus possible. Tu ne peux plus avoir des consoles aujourd'hui qui ont 512 mots de RAM. Enfin, c'est juste
Ouais.
ridicule, quoi. Moi, je veux dire, les PC aujourd'hui, ils ont eu, le sens standard maintenant, c'est 4 Go de RAM. Parce que le problème, si tu veux, avec les consoles qu'il y a aujourd'hui, nous, ça nous bride sur PC, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Avec le multi-support, on est complètement bridé. On a des gigas de RAM qui nous sont sous-exploités. On a des cartes graphiques qui sont sous-exploitées. Et je pense qu'il y aurait moyen, même au niveau de. Tu parlais d'artistique tout à l'heure, mais justement, mais la puissance, c'est ce qui permet de faire des trucs de fou. Par exemple, je vois Xenoblade sur Wii, mais franchement, Xenoblade, tu penses pas que Xenoblade, s'il sortait. Sur PS3 ou sur Xbox 360, je veux dire, il y a des décors qui sont déjà très beaux pour de la Wii,
Ouais.
mais je me dis, mais putain, mais s'il y avait la 360 derrière, qu'est-ce que ça serait, quoi?
Bien sûr.
Ce serait la puissance, c'est ce qui permet aux mecs qui s'occupent de la direction artistique derrière de se lâcher complètement, quoi, de partir
Ouais.
dans des délires, et même au niveau des mécaniques de gameplay. Je veux dire, il y a quelques années, Portal serait un jeu qu'on n'aurait pas pu faire parce que voilà
Non.
quoi, le
Ouais.
délire de créer des portails, de peinture lurée sur les murs, etc. Ça aurait juste pas été possible quoi.
Bien
Donc
sûr.
moi je dis, il faut absolument que la prochaine génération de consoles ne prenne pas l'exemple de Nintendo, j'ai envie de dire,
Non, ouais,
et
non, ça
vraiment
c'est certain.
qui bon après pas forcément tu vois faire des trucs totalement extravagants parce que c'est vrai au bout d'un moment bon c'est pas non plus
Voilà.
exagéré, faut qu'il y ait un rapport puissance-prix.
Moi,
si
je
tu veux
pense.
qu'il soit raisonnable.
Ouais.
Mais il faut que ça soit. Il faut quand même exploiter le truc, quoi.
Oui, enfin, en tout cas, moi, je pense que le choix entre les deux consoles, puisque bon, maintenant, on est sûr qu'il y aura une. Enfin, c'est évident qu'on aura une bataille entre. Bon, on va l'appeler la Xbox 720 et la PlayStation 4. Bon, on va appeler ça des noms de code. Je pense que la bataille entre ces deux consoles-là ne va pas se faire sur. Moi, je peux afficher 4000 PNJ en un écran ou voilà. Ça va pas être de la bête. Enfin, avant c'était juste ça, tu vois. Pourquoi acheter ma PlayStation 3? Parce que moi, je peux afficher tant de trucs. Voilà. Je pense que ce serait bête que on reprenne une bataille comme ça. Je pense que ça va pas se faire là-dessus. Le choix entre les deux consoles va pas se faire là-dessus, mais sur les jeux qui vont être proposés au lancement. Alors c'est évident qu'on a besoin de puissance pour libérer un petit peu plus encore le côté artistique, le côté technique, le côté physique, mais je suis pas sûr que ce soit l'argument de vente
numéro 1.
J'aurais
eu envie d'ajouter le côté intelligence artificielle, mais
aussi,
malheureusement je n'ai que très peu d'espoir de ce côté-là, mais...
C'est pas tellement bien un jeu avec de la bonne intelligence artificielle, mais bon, moi personnellement...
C'est de l'heure du rêve, je pense, hein, personnellement...
Ouais. Je crois que c'est un rêve éveillé, mais en tout cas, je pense que ça va, le choix de l'acheteur ne va pas se faire là-dessus, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est mon humble avis. Enfin, moi, le choix, je l'ai jamais fait au niveau de la puissance d'une console. Voilà. Donc.
Le truc, c'est que si tu veux, on en a parlé la semaine dernière. Il y a tellement peu d'exclusivité de nos jours
Ouais.
que finalement, si c'est pas sur le critère de la Même pas, je te parle même pas de puissance là. Je te parle de potentiel de la console. Parce que finalement, la puissance, c'est ça. C'est le potentiel que peut t'offrir la console. Et donc, le truc, c'est que, vu que maintenant les exclus, à part les exclus constructeurs, je veux dire, t'as plus rien. Donc si c'est
Ouais.
pas sur la puissance que tu te bases, sur quoi tu vas te baser, quoi.
Alors,
C'est ça.
moi je suis persuadé que si on voit aussi peu d'exclus de nos jours, ça s'est vu en fin 2011 et ça va se voir à mon avis en 2012 aussi. C'est parce que justement ils sont en train de préparer la relève au niveau des next gen. Je suis persuadé qu'il y aura, on va avoir une vague d'exclus sur ces next gen. En tout cas, les deux éditeurs de consoles vont vraiment balancer les biftons pour acheter ces exclus là, justement pour faire penser le choix. Pour faire pencher le choix des joueurs. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on va voir plus d'exclus au lancement de ces consoles-là.
Oui, après, est-ce que ça sera des vrais exclus? Parce que je veux dire, si
Oui,
c'est
c'est
pour
vrai.
faire comme GTA ou Final Fantasy 13, ah bah tiens, ok, une exclue. Ah bah non, juste au Japon, quoi, parce que l'Europe et les États-Unis, faut pas décoller quand même, quoi. Bah si c'est pour faire des trucs comme ça, ouais, d'accord, quoi. Ou alors les exclus à rebours, où on dit c'est une exclue, mais finalement un an plus tard, c'est le jeu qui sort sur la console concurrente d'en face, enfin...
Peut-être, mais
Ouais,
ça tu le
bon.
sais pas au départ, tu vois. Donc et l'air de rien,
Bah, si
quand
tu
même.
veux, on commence à avoir un peu de la bouteille, quoi,
Ouais.
les joueurs. On
C'est
sait
clair.
que, bon, quand c'est une exclu éditeur tiers, ça dure jamais, quoi.
Donc bon,
Donc,
enfin
voilà.
moi en tout cas, c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir. Enfin, ces exclus-là, c'est vrai que bon, on est tellement habitué maintenant à avoir que des exclus qui ne sont faites que par les éditeurs, par les développeurs first party. Les on en a parlé là, sur
Les
le
Naughty
cas
Dog,
en 2011. Il y a
voilà.
en fait maintenant les exclus, c'est Naughty Dog, c'est ceux qui font God of War, c'est ceux qui font Gears of War. C'est des studios qui
Epic Games.
n'appartiennent que, voilà, Epic Games. Ce sont des studios qui n'existent, qui sont achetés par Microsoft et par Sony. Après, est-ce que on pourrait pas voir justement des développeurs qui, enfin, plus de studios créés par ces éditeurs de consoles-là? Je pense que c'est pas stupide non plus.
Non. Moi, je pense que si des exclus doit y avoir, et c'est une tendance qu'on avait constatée dans le dernier podcast, ça sera au niveau du dématérialisé.
Ouais.
Je pense que ça sera là-dessus. Et encore, Pas toujours, parce que je vois de plus en plus de projets, même au niveau des indés, qui sont même multiplateformes, téléphone portable, PC 360, enfin, qui sort, qui vraiment bouffent vraiment à tous les râteliers.
C'est clair. Tu parles d'Electronic Arts, là?
Non, non, pas forcément. Hein. Même des développeurs indépendants qui, voilà, quoi, ils sortent et ils ont raison. Hein, pour ils s'en priveraient. Je veux dire, ils font pas des ventes phénoménales non plus, donc il n'y a pas de raison. Ça serait bête de se priver aussi.
Bien
Hein,
sûr. Donc bon, enfin moi en tout cas les consoles next-gen, enfin on l'a dit, on les voit plus arriver vers la fin 2013.
Oui.
Je vois bien Microsoft sortir en premier, quand même.
Et s'il vous plaît, messieurs les constructeurs, mettez de la RAM dans vos putains de consoles, c'est juste plus possible. Ça ne coûte plus rien la RAM, bordel. Ça coûte rien. Rien que dalle. Putain, franchement, que 8 Go de RAM aujourd'hui, tu les payes 40 euros, mon vieux. Enfin, laisse tomber, quoi.
Et faites des vraies manettes aussi, s'il vous plaît. Ouais.
Comment ça? Attends, elle est très bien, la manette de votre
Non.
sauce.
Oui, non, mais j'ai très peur
Mais...
de. Si tu veux, j'ai très peur
Ah
de
oui,
PlayStation
t'as.
4 et de
Tu veux
PlayStation
dire
5.
qu'on switch sur le motion gaming, c'est ça?
Oui, moi j'ai très peur de ça. J'ai pas envie de ne faire que du motion gaming maintenant.
Ben, moi, ouais, alors ça, tiens, je soulève un problème intéressant qu'on n'a pas abordé, c'est vrai. Moi, je pense qu'on aura par. En fait, ça va faire comme la Wii. Tu auras un contrôleur classique. Donc, moi, je pense qu'ils vont pas se casser le cul, ils vont reprendre le contrôleur 360, ça sera très bien.
Oui,
Et
bonne
que à
idée.
côté, tu auras par défaut le Kinect fourni avec la console. Mais là, c'est un pari. Hein. Ça se trouve, je me
Ouais.
plante totalement complètement parce que mine de rien, quand tu commences à calculer le prix que ça va coûter, tu
Oui.
commences à poser des questions.
Bah oui, parce que en plus, s'il te faut une console qui soit plus puissante, plus machin, tu rajoutes un Kinect intégré
Ben,
dans le
plus
truc.
puissante, je veux dire, il y a moyen de faire une console pas trop chère, qui a
Ouais.
une puissance spectaculaire quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas le souci. C'est surtout quand tu rajoutes les accessoires par-dessus que là,
Voilà,
ça.
c'est ça. Donc, et moi personnellement, alors peut-être que je suis un harpagon, mais j'ai pas envie de me retrouver une fois de plus avec une PlayStation 4 qui vaut 600 €. Même chose pour une Xbox 720. Et j'espère qu'ils referont pas l'erreur de faire une console qui coûte aussi cher.
Bah, Microsoft, en tout cas, faut pas exagérer non plus, Microsoft, ils ont toujours eu des prix de lancement parmi les prix de lancement les plus intéressants quand même. Hein,
Oui.
bon, en général, ce qui se passe, c'est du côté de Microsoft, t'as des prix assez intéressants, mais c'est au niveau tout ce qui est disque dur, etc., tu te fais
Ouais, oui, c'est vrai.
pigeonner pas mal, quoi.
Et parce que Sony a toujours misé sur la technologie plus que sur le prix, en fait.
Et au niveau de Sony, en fait, t'as la console à 600 euros, mais en fait, tu peux pratiquement tout changer dans ta console, quoi. Donc,
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant puisque Sony avait parié sur le Blu-ray disque, le Blu-ray, qui est maintenant relativement imposé, en fait, hein, dans les foyers, enfin, en tout cas, dans les magasins. Je pense en fait que la Xbox 720 va être obligée de se mettre sur ce format-là. Enfin, je sais pas, à moins que dans 2 ans on ait changé de support, mais je sais pas, moi j'ai une petite intuition qui me dit que en fait la Xbox 720 va devoir se mettre sur le Blu-ray et manger dans la main de Sony en fait.
Je suis pas sûr. Ils peuvent revenir en format cartouche, hein. C'est possible, hein, de nos jours.
Tu crois?
Ah oh, mais carrément. C'est tout à fait possible, aujourd'hui, de revenir sur le format cartouche. Hein. Tu regardes le prix des cartes, etc. C'est tout à fait possible. Moi, je ne parierais pas forcément sur du Blu-ray. Hein.
Enfin, en tout cas,
C'est clair.
je pense que ça leur ferait mal au cœur
Et
de se lancer sur du Blu-ray.
justement, moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à passer au format cartouche. Pourquoi? Parce que même au niveau des temps d'accès, etc.
Oui, c'est vrai.
C'est un gros avantage, quoi. C'est bon.
Après, est-ce que tu peux mettre autant de choses sur une cartouche?
Bah, t'as dit 432 Go, Mordren.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux de plus?
Ouais.
Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Oui, c'est
Il
sûr.
y a mille et une questions qu'on peut se poser là-dessus. Et ça promet d'être une année très
En
intéressante.
tout cas, ce qui est
En...
certain, c'est on va y avoir un beau wow effect quand on va découvrir ces consoles-là. J'en suis persuadé.
Ensuite, on va passer vite fait sur ce que j'ai appelé la vraie nouvelle génération de MMO. Parce que bon, les Star Wars, les machins, les visuels, bah, je suis désolé, c'est en fait, même ils assument, ça n'est jamais que une ressucée de
Ouais.
WoW, peut-être mieux fignolée, et encore, ça se discute.
Ouais.
Je voulais donc vous parler, bon, on est d'accord, c'est deux jeux que j'ai pris, parce que sinon on va y passer la journée, et c'est juste pas possible. Donc je voulais donc parler principalement donc, de deux jeux, l'un occidental, l'un coréen, à savoir Guild Wars 2 et ArcheAge. Alors pourquoi la vraie nouvelle génération de MMO? Parce que ils ont des philosophies de jeux qui, mine de rien, sont assez innovantes dans le monde du MMO. Donc, les deux points principaux que j'ai retenus, donc c'est du côté de Guild Wars, la suppression de la frustration du leveling.
Ouais.
Si vous voulez, dans Guild Wars, le concept, c'est que la nature est vivante, elle réagit, et des fois, il y a des monstres qui vont venir attaquer, je sais pas, un avant-poste. Si vous faites rien, cet avant-poste, ça va venir une zone où il y aura plein de monstres, et du coup, ils attaqueront la zone suivante, etc. L'idée étant que n'importe quel joueur dans la zone donc peut participer à repousser ces monstres-là, et que donc il n'y a pas besoin de grouper parce que c'est l'ensemble des joueurs qui ont participé qui vont recevoir de l'expérience, des objets, etc. Ils ont repris un concept qui s'appelle le concept de sidekick, qui existait déjà dans le jeu avec les super-héros, là, bon, j'ai oublié, totalement oublié le nom, mais enfin, peu importe, City of Heroes, voilà. Ils ont pris le concept de sidekick, qui est que vous allez vous retrouver au niveau des joueurs les plus élevés, et vous allez vous faire un pool de compétences, etc., pour être au niveau de tout le monde, et tout le monde est au même niveau, et on y va, quoi. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant, tu vois, parce que finalement, on se focalise plus sur le leveling, qui est le truc bête et méchant qui a été mis en place il y a 15 ans, parce qu'on avait trouvé rien de mieux pour occuper les gens. Là, finalement, on change complètement de philosophie. Il n'est plus question de level up, il est question de s'amuser. C'est voilà,
Enfin.
on va vous proposer un contenu qui va vous permettre de vous amuser immédiatement, et finalement, on s'en fout que vous soyez au niveau machin ou niveau truc. Tout le monde va s'amuser, quoi.
Bon.
C'est un changement total de paradigme, je trouve, qui est assez intéressant. Et de l'autre côté, donc tu as ArcheAge. Alors ArcheAge, qu'est-ce que c'est? ArcheAge, c'est un MMO où tout repose sur le contenu que vont créer les joueurs. C'est-à-dire, les guildes vont pouvoir construire des forts, et donc, il y a les guildes adverses qui vont pouvoir défoncer les forts qui ont été construits. Les gens vont pouvoir construire leurs bateaux, et ensuite, sur ces navires-là, donc, il y aura le barreur, les mecs qui contrôlent les canons, etc. Et donc, ces équipages-là devront prendre d'assaut des forts qui seront protégés par d'autres navires, etc. Vous voyez, c'est un jeu où tout le contenu est créé par les joueurs, où le monde évolue en permanence, avec un monde ouvert en plus, où vous allez pouvoir créer vos fermes, etc. Bref, un monde en évolution permanente, où finalement tu as une vraie influence sur ce qui se passe, où il n'y a plus d'instance, où vraiment il y a quelque chose qui se passe, où tu as vraiment le sentiment, enfin, d'avoir une influence sur le destin du monde, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis très optimiste sur l'avenir du MMO. Ça faisait des années que j'étais désespéré de voir. Je trouvais que ça tournait en rond, tu vois. On reprend toujours les mêmes concepts, on
Mais
refait
bien
du
sûr.
leveling, etc. Enfin, ça tournait en rond. Et là, enfin, t'as ces MMO-là qui arrivent. On pourra me rétorquer que oui, à chaque fois, les promesses, etc. C'est jamais tenu. Non, non, non. Guild Wars, je veux dire, ce qu'ils ont fait. Mine de rien, c'est des concepts qui avaient déjà été plus ou moins abordés dans d'autres jeux. Là, ils ne font que les sublimer, j'ai envie de dire. En plus, bon, toutes les histoires au niveau des abonnements, etc., ça aussi, c'est très intéressant. Parce que je rappelle, donc, sur Guild Wars 2, il n'y aura pas d'abonnement, vous aurez juste à payer le jeu et ses extensions. Et sur ArcheAge, tout ce dont je vous ai parlé, là, c'est déjà dans le jeu. Il y a eu plusieurs phases de bêta. Et tous les éléments dont je vous ai parlé, c'est déjà dans le jeu, c'est déjà implanté, etc. Donc c'est pas juste des promesses comme ça, vite fait, sur un coin de table, non, non, c'est déjà dans le jeu. Donc deux MMO que j'attends avec impatience, bon, il y en a d'autres, mais en tout cas, vive la nouvelle génération de MMO.
Bon. Et moi, j'ai décidé d'être fermier sur ArcheAge. Voilà, je vous préviens. Dès que le jeu sort, je vais me retirer dans ma ferme.
je viendrai cramer ta ferme.
Non!
Avant de passer au jeu, nous allons terminer par un top, n'est-ce pas? Un top qui a été initié par le site IndieDB. Alors, si vous ne connaissez pas IndieDB, en fait, c'est un site où les développeurs indépendants viennent pour poster des news, pour tenir au courant la communauté sur ce qu'ils préparent. Et donc, ce site-là a décidé de faire un top. Alors, il y a deux tops, en fait. C'est-à-dire le top 2011, où les jeux voilà qui sont sortis... Enfin, c'est un top assez bizarre, parce qu'il y a 10 jeux qui sont encore en alpha qui sont dedans. Donc,
En tout cas, les jeux qui ont fait leur début en 2011.
Et donc, dans les jeux pour 2012, j'ai décidé de vous citer le top 5, parce que, voilà, c'est des jeux qui sont pas mal. Je pense que ça pourrait vous donner des idées.
Ouais.
Des idées comme ça, de listes à faire... Donc, en cinquième position, nous avons Project Zomboid, dont je vous ai parlé souvent, n'est-ce pas?
Bien évidemment, ouais.
Donc, Project Zomboid, qu'est-ce que c'est? C'est ce survival en 3D isométrique où, voilà, quoi, vous êtes un survivant et vous allez mourir de toute façon, sachant que l'enjeu, donc, c'est de survivre le plus longtemps possible.
Ouais.
Donc, vous allez devoir barricader vos fenêtres avec des planches, vous allez devoir faire de la cuisine, et faites gaffe quand vous faites de la cuisine, ne laissez pas la casserole sur le feu parce que vous allez cramer la maison, sinon... Vous allez devoir survivre aux zombies, tout simplement. Sachant que depuis que je vous en ai parlé, il y a eu des petits changements parce qu'en fait, ils ont rajouté un cône de vision.
Ouais.
Et résultat, quand il y a des zombies derrière toi, tu les vois pas.
Oh. Ah, c'est horrible.
En tout cas, un jeu que j'attends énormément. Ok, encore des zombies, j'ai envie de dire. Mais, il propose un concept vraiment génial.
Mm-hmm.
Ensuite, Dear Esther. Alors, je sais pas trop comment vous présenter ça. C'est une expérience narrative plutôt qu'un jeu, j'ai envie de dire, mais nos amis Arty seront ravis, n'est-ce pas? C'est une expérience narrative qui se passe sur une île où voilà, vous allez voir vous déplacer dans des décors et en fait on va vous raconter une très belle histoire et même dans des décors très beaux, mon cher Morgan, parce que je crois que je t'ai montré un peu ce que ça donnait et c'est juste waouh quoi.
Ouais, c'est vraiment magnifique avec des décors très très minéraux. Et ben regarde juste à voir les screenshots, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et ensuite j'ai vu le trailer, la vidéo qui a été faite, et c'est vraiment magnifique quoi. Enfin, il y a un moteur voilà, tu en baves sur place quoi. Après le problème c'est qu'on sait pas du tout de quoi va être fait le jeu.
En fait ça c'est un remake, c'est une espèce de remake d'un truc qu'ils avaient déjà fait je sais plus si c'était à partir de SourceForge, enfin ils avaient fait ce jeu là avant. Mm-hmm. En fait c'est un remake avec leur propre moteur à eux.
Mm-hmm.
Et c'est une expérience narrative quoi apparemment. Bon moi je vous avouerai que j'y ai pas joué parce que ce genre de truc personnellement ça m'attire pas plus que ça.
Mm-hmm.
Mais voilà, amateur d'expérience un peu bizarroïde comme ça. Ensuite, Chivalry Medieval Warfare. Alors ça, c'est un jeu que j'ai surveillé personnellement. Je vous en ai pas parlé, mais le surveiller du coin de l'œil. Alors, c'est un FPS, mais c'est un FPS médiéval et qui est vraiment axé en fait sur les combats à l'épée. Alors voilà, si vous avez aimé Oblivion, mais que vous vous disiez que, ouais, quand même, le combat à l'épée, c'était pas tip-top, hein, c'était même assez basique, et ben là, vous allez avoir un vrai FPS, alors c'est pas un RPG par contre, hein, malheureusement, mais c'est un vrai FPS où, voilà, quoi, il y aura du vrai combat à l'épée, il va falloir jauger les distances, etc. Bref, vous allez jouer un chevalier en armure, donc à surveiller très très près, ça a l'air très intéressant.
Ok.
Ensuite, Renegade X. Alors, je vous avoue que celui-là, je l'ai pas suivi. Apparemment, c'est un third-person shooter avec un côté tactique. J'en sais pas plus, mais je vous avoue qu'il m'attire pas plus que ça parce que c'est vraiment que ce soit la direction artistique ou bref, ça a l'air assez générique en fait. Et pour terminer, ça c'est probablement l'un des jeux que j'attends le plus. S'il s'agit de Overgrowth. Alors, qu'est-ce que c'est Overgrowth? Alors, Overgrowth, c'est le jeu où tu joues des lapins ninja. Et c'est très intéressant parce que on rigole comme ça, mais je sais pas trop comment vous présenter en fait parce qu'il y a une partie combat qui a l'air très bien foutue. Et en fait, c'est vraiment un jeu où tu joues des moines Shaolin ninja qui vont pouvoir sauter sur les murs, faire plein de trucs quoi. Et les combats ont l'air passionnants. Je vous invite à suivre les développeurs de ce jeu donc parce que je soupçonne qu'ils sont en premier de ce top parce qu'ils font une news chaque semaine. Où ils présentent leur jeu, où ils présentent des features qu'ils préparent pour leur jeu. Et c'est un jeu qui est vraiment impressionnant. Au niveau du moteur, il y a des trucs passionnants. Genre la localisation des dégâts la gestion du sang, la gestion, les ragdolls qu'ils ont fait, je vous rappelle les ragdolls, donc c'est
Ouais.
des poupées donc qui sont utilisées pour genre quand tu tapes à la tête, tu vois, ça il y a vraiment une animation qui fait que quand tu tapes à la tête, bah c'est la tête qui part en arrière, etc.
Ouais.
Vous voyez GTA quand vous renversez les piétons et qu'il
Ouais.
n'y a jamais une animation pareille que l'autre. Bah c'est ça, ils ont fait un truc. C'est pas encore au niveau de GTA 4,
Ouais.
mais c'est très proche et mine de rien pour un jeu de combat, c'est très impressionnant. En tout cas, c'est un jeu que j'attends beaucoup parce que à côté de ça, ils vont proposer un éditeur de niveau qui a l'air très très puissant, qui va permettre de faire plein de choses. Je vous invite à aller voir les vidéos pour vous faire une meilleure idée de ce que c'est. Mais en tout cas, si vous aimez les Lapin Ninja, si vous aimez la baston, eh bien allez-y parce que ça va roxer du poney.
Lapin
Sachant que
Ninja.
c'est un des jeux avec Minecraft qui vraiment un des premiers jeux qui a proposé donc le modèle économique, à savoir vous payez pour accéder à l'alpha. D'ailleurs, le jeu est encore en alpha. Et voilà. Sachant que les gars derrière sont aussi ceux qui sont derrière le Humble Bundle, etc. Donc, 5 jeux que vous pouvez surveiller, sachant qu'il y en a d'autres, hein. C'est un top 100 à la base. Donc,
Ouais.
vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil au top 100. Il y a des choses pas mal.
Ok.
Donc, voilà. C'en est tout pour nos prévisions boule de cristal. Maintenant, on va parler du jeu qu'on attend, tout simplement. Eh ben, je crois qu'on va commencer avec toi, mon cher Mordren.
Ouais, il a été difficile de nous restreindre, surtout pour toi d'ailleurs.
Ah oui, non, c'est une horreur.
Et moi, je me suis concentré en fait sur les gros jeux que j'attends. Bon, évidemment, il y aura du GTA V, même si on n'en a pas du tout entendu parler depuis le trailer. Moi, personnellement, j'imagine très fortement qu'il sortira en 2012, vraisemblablement vers avril-mai. Michael Pachter, bonjour. En tout cas, ça m'étonnerait pas. GTA V qui va se dérouler dans Los Santos, la ville, enfin la région où s'était déroulé GTA San Andreas. Et en tout cas, au niveau de l'ambiance, au niveau de la du design, enfin du peu de design qu'on a vu en tout cas de la ville, ça a l'air très très
Énorme.
bien. Ouais, ça a l'air vraiment énorme. Et puis moi en fait je l'attends pas pour le classique du GTA, à savoir la fusillade à tout va. Je l'attends surtout pour l'ambiance et la mise en scène du scénario, quelque chose qui avait été très très fort dans GTA 4.
Et j'attends aussi, vu ce qu'ils annoncent au niveau de la grandeur de la map,
Ouais.
j'attends, quand même, je les attends au tournant pour voir ce qu'ils vont proposer pour nous occuper les joueurs pendant les trajets,
Ouais.
etc. Parce que si c'est des trajets de 3 heures en bagnole, ça va pas être possible.
Mais en tout cas, ça a été, ils avaient été très très forts dans Red Dead Redemption pour
Ouais.
proposer des événements aléatoires, et j'espère que ça va être repris dans GTA V et
Repris et amélioré, ça serait bien.
repris, amélioré, enfin et peut-être plus diversifié. En tout cas, le trailer m'excite beaucoup et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mes petites paluches dessus
Ouais,
pour voilà.
moi j'attends aussi ce que j'attends, c'est vraiment voir le personnage, parce que vraiment
Ouais.
c'est ça. C'est ce qui fait que tu t'attaches à un GTA ou pas, hein, quelque
Bien sûr.
part.
Ouais.
Moi je veux dire, si j'ai vraiment apprécié beaucoup plus The Ballad of Tony, bon, outre l'ambiance évidemment,
Ouais.
c'est aussi à cause de ce duo entre Louis et Tony qui est
Ouais.
vraiment désopilant. Alors que, bon, Nico Bellic, il est vraiment sympa comme perso, mais je dis pas, mais c'est un personnage qui m'attire un peu moins, quoi.
Moi, en fait, plus que le personnage principal, c'est toute la galerie de
Ouais.
personnages qui gravitent autour. Parce que généralement, les personnages secondaires sont vraiment très hauts en couleur et vraiment très très sympas, à l'image du cousin de Niko Bellic. Ou enfin voilà, tout ça
Ou
c'est.
Youssouf dans Gethsemane, mon Dieu.
Voilà, c'est. Donc bref, moi personnellement, enfin de toute façon, dès qu'un GTA sort, je l'attends beaucoup et voilà, c'est surtout pour la mise en scène et tout le monde autour. J'espère qu'on va pouvoir vraiment vraiment s'amuser dans ce GTA V. En tout cas, j'en doute pas une seconde, mais je l'attends beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je l'attends énormément.
Ensuite, je crois que tu voulais nous parler de Mass Effect 3.
Ouais. Alors, Mass Effect 3, c'est un petit peu compliqué d'en parler puisque
On n'a pas vu grand-chose en fait, hein.
enfin en fait tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui rassurent pas forcément.
Bah, de
C'est-à-dire
l'action, quoi.
voilà, tout ce qu'on voit en fait, il faut bien voir ce que sur tous les événements jeux vidéo, tout ce qui sort au niveau de Mass Effect 3, c'est de l'action pure et dure. Parce que ce qu'on aime bien maintenant, c'est montrer de l'action, montrer du TPS, du shooter à mort. Et c'est vrai que Mass Effect, c'est aussi autre chose que ça. Et malheureusement, dans Mass Effect 3, ce qu'on montre, c'est que de l'action. Et c'est vrai
oui,
que...
mais mine de rien, ce que je voudrais faire remarquer quand même, c'est que déjà dans Mass Effect 2, par rapport à Mass
Oui.
Effect 1, il y avait déjà une accentuation du côté de l'action, avec déjà au niveau de la personnalisation des caractéristiques des personnages, ça a été simplifié à l'extrême.
Ouais.
Personnellement, je pense pas pour le mieux, mais bon, ça c'est un autre débat.
Ouais.
Et finalement, c'est l'évolution logique
Bien
quelque
sûr.
part, j'ai envie de dire.
Bien sûr. Mais c'est vrai que bon, Mass Effect 2, il y avait vraiment une simplification du côté RPG de Mass Effect 1.
Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup plus un first person shooter qu'un RPG. Non
oui, bah, en tout
ok,
cas.
Y avait, c'est vrai qu'il y avait des dialogues.
Ouais.
Mais pour moi, c'était un first person shooter avec des dialogues. Mais
Ouais.
le côté RPG, etc. Oui, il y était, mais c'était très réduit, quoi.
Alors le problème en fait, c'est que Mass Effect a un gameplay qui est relativement lourd au niveau du TPS.
Ouais.
C'est-à-dire que bon, au niveau des mouvements, c'est absolument pas un Gears of War, faut arrêter. Il y a des mouvements qui sont pas du tout rapides. Enfin, c'est au niveau de la physique du personnage, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Donc
ou encore pire, Vanquish, si tu compares à Vanquish.
Ouais,
là,
c'est clair. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je ne vois pas du tout Mass Effect comme un TPS, même si ça tend vraiment à le devenir. En tout cas, moi, ce que je veux dans Mass Effect 3, c'est que la trilogie se conclue de façon spectaculaire. Enfin, pas spectaculaire, mais au niveau...
Ah bah, pour le coup, tu vas rien avoir du spectacle. Hein.
Que ça soit vraiment bien conclu, parce que la fin de Mass Effect 2, c'était génial. Mass Effect 3 a l'air vraiment de continuer au niveau du space opéra, et c'est pas pour me déplaire. Après, j'espère aussi que ça ne va pas être que de l'action non-stop, et qu'il va y avoir au niveau des personnages un travail aussi, au niveau de leurs intrigues, et qu'il y aura toujours autant d'embranchements au niveau scénaristique, parce que c'est aussi ça la qualité des Mass Effect. Les joueurs ont des histoires différentes, donc c'est pour ça que j'attends Mass Effect, et c'est vrai que au niveau de l'action du jeu, c'est vrai que bon... Ça me fait un petit peu traîner les pieds, mais je l'achèterai forcément puisque c'est Mass Effect et j'ai vraiment envie de voir ce qui arrive à Shepard et à la Terre envahie
alors,
par les moissonneurs.
Qu'est-ce que tu veux comme in-game à la con dans Mass Effect 3 après le largage de probe dans Mass Effect 2, après les séances en véhicule dans Mass Effect 1, qu'est-ce
ouais.
que tu veux
Je sais pas. Moi j'aimais bien les séances en véhicule à la con.
Ah non, putain. Ah non, moi je supportais pas ça. C'était chiant, il y avait rien, c'était du vide.
Ouais.
C'était inutile. Alors je suis d'accord, les probes c'était aussi inutile, hein, on est d'accord.
C'est clair.
Mais au moins ça durait moins longtemps.
Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une dimension exploration plus poussée. Enfin, en tout cas, qu'il y ait à la fin du jeu, qu'il y ait une possibilité de continuer sur des quêtes annexes. Ce qui est pas vraiment possible en fait dans Mass Effect 2. Moi j'aimerais bien qu'il y ait ça à la fin de Mass Effect 3, tu vois. Et que soyons bien clairs, j'attends pas du tout Mass Effect 3 pour le multijoueur. Moi personnellement, je m'en tape complètement.
C'est sûr que autant jouer à Gears of War.
Et c'est vraiment le solo que j'attends sur Mass Effect 3. Voilà. Bon après, comme troisième jeu que j'attends The Last of Us, qu'on a découvert très très récemment au VGA. On a découvert que dans un trailer d'ailleurs, hein. Mais pourquoi je l'attends ?
C'est pas du tout ce que va donner le jeu en plus. Hein.
Oui, on sait pas du tout ce que ça va donner. Moi en fait, ce qui me plaît dans ce trailer là, c'est la fin du trailer en fait. C'est quand on voit les deux personnages ouvrir la porte vers un monde post-apocalyptique en fait, qui ressemble vraiment au design du film Je suis une légende. Alors on va pas parler de la qualité du film et de son adaptation.
Ouais, parce que là va y avoir des morts, alors, je te préviens.
Mais juste au niveau du design, ça me fait vraiment penser à ça, ce New York complètement avec qui est transformé un petit peu en jungle en fait, où là en fait il y a deux personnages qu'on imagine être les personnages principaux du jeu, une jeune femme et un mec d'une trentaine d'années, un truc dans le genre, qui se battent en fait pour survivre, donc avec des personnages à mon avis infectés par une sorte de virus, bon, on a l'habitude, mais aussi des humains bien portants mais plutôt mal intentionnés. Ça me fait penser un petit peu au livre La Route de Cormac McCarthy.
Bah, moi, ça m'a fait penser à Walking Dead. Mais...
Ouais. Donc, en fait, avec ce... À mon avis, je vois bien un voyage, en fait, de ces deux personnages vers un endroit peut-être meilleur. avec un espèce de, comment dire, de paranoïa vis-à-vis des humains bien portants. Puisque les humains bien portants deviennent en fait des menaces par eux-mêmes, malgré le fait qu'ils soient...
Ils sont même, en général, des menaces un peu plus consistantes que les infectés, au final.
Ils sont intelligents et ils savent que c'est la survie du plus fort, en fait. Et le plus fort peut être aussi le plus rusé. Et donc, du coup, essayer de faire des coups en douce avec des gars qui font l'amical et qui, finalement, te volent tout ce que t'as pendant la nuit. Enfin, moi, je vois ça, en fait, dans ce petit trailer de 2 minutes. Une ambiance assez forte avec de la survie assez poussée. Et c'est pour ça que j'attends vraiment The Last of Us et j'attends vraiment d'en découvrir un petit peu plus. Alors, je suis pas du tout sûr que ça sorte en 2012, même si je verrais bien une sortie... un petit peu dans les alentours de ce qui se fait pour une sortie d'Uncharted, quoi.
En espérant que s'ils s'inspirent du film I Am a Legend, ils évitent la partie où Jésus intervient pour sauver le héros parce que ça va pas le faire.
Ouais.
Ensuite, je crois que tu voulais nous parler de Tomb Raider.
Ouais, alors Tomb Raider, c'est moi en fait, pourquoi je l'attends? Parce que c'est le renouveau d'une série. Je l'attends un petit peu moins sur l'aspect QTE qui était très très poussé dans la présentation de l'E3. J'espère qu'il n'y aura pas que ça dans le jeu. Mais moi j'aime beaucoup l'ambiance survie de ce qu'on nous a présenté avec Lara.
Alors, moi il faut savoir que j'ai un papa qui est fan de Tomb Raider. Et j'espère pour lui qu'il y aura encore des énigmes dans le jeu parce que sinon il va tomber très haut. Hein, parce que pour le moment ça me fait un peu peur quand même parce que tu veux, je vois de l'action, je vois des QTE mais je vois pas d'énigmes. Alors je veux bien qu'ils aient changé la formule, mais à ce point, ça risque d'être compliqué. Hein.
Moi je vois bien donc Lara lâchée sur une île déserte, a priori avec des pas si désertes que ça, mais je vois quand même ces phases de plateforme et des phases d'énigmes. Enfin c'est certain, ça m'étonnerait qu'ils aient enlevé ça. Alors à mon avis il y aura quand même, enfin moi ce qui me gêne un petit peu c'est les QTE, mais je pense que le postulat de départ, à savoir les énigmes et la plateforme, ça restera là. Après, voilà, faut voir ce qu'ils en font. On attend avec impatience qu'ils nous en présentent un petit peu plus. Et autre chose que du QTE, voilà.
D'ailleurs, pensez à moi, s'il vous plaît, messieurs, parce que s'il y a des phases de QTE, c'est moi qui dois me les taper pour mon père, hein, donc...
Elizabeth, promise me. I will stop him.
That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back.
Elizabeth!
On it!
Don't move, I'll be right back!
Infinite.
Ouais, BioShock Infinite.
ça, je crois que c'est le jeu que tout le monde attend. En fait.
C'est impossible de pas l'attendre, ce jeu-là, avec un BioShock qui est sans doute un des meilleurs jeux de la génération 360 PlayStation 3. Bon, en tout cas, celui qui restera à la postérité pendant un moment. Et BioShock Infinite, qui est à mon avis le vrai BioShock 2, avec une ambiance steampunk au possible, dans une ville aérienne qui s'appelle Columbia. Avec un nouveau personnage qui s'appelle Booker, en duo avec une jeune femme qui s'appelle Elizabeth. Un duo qui a l'air assez intéressant d'ailleurs. Le personnage principal que l'on joue à la première personne a l'air d'être le protecteur d'Elizabeth. Et Elizabeth qui, a priori, s'est enfuie d'un endroit où elle était maltraitée. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Moi, ce qui m'a plu dans ce qu'on a vu dans les phases de gameplay et le trailer, bien évidemment, c'est l'ambiance de cette ville aérienne, une ville qui a l'air d'être aux mains d'un espèce de tyran, donc tu dois te reconnaître là-dedans.
J'ai envie de dire, le tyran qui domine la ville, c'est une constante dans... Enfin, que ce soit dans BioShock ou même dans le jeu précédent de la cible, à savoir System Shock, c'est toujours ça. C'est System Shock, c'était des intelligences artificielles à la portale qui étaient maîtres des lieux et qui te pourrissaient la vie. BioShock, bah pareil, hein, t'avais un mec qui parlait dans son haut-parleur qui te faisait chier pendant tout le jeu,
Ouais.
et voilà quoi, c'est une constante.
Ouais, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est à quel point le gameplay commence à se varier un petit peu plus autour, justement, du design de départ, puisque la ville, en fait, est par essence aérienne, et il y a des espèces de rails que l'on peut utiliser pour se déplacer dans la ville, et la ville est vraiment bâtie autour de ça. Ça a l'air vraiment vraiment sympa. Enfin, en tout cas,
Ça,
moi,
c'était un truc frustrant, justement, je trouve,
ouais.
dans BioShock.
Ouais.
Ok, Rapture, c'était une ville sous-marine, mais bon, finalement, c'était pas trop exploité au niveau du gameplay, quoi.
Assez linéaire, je trouve, aussi.
Alors que là, ils ont vraiment l'air d'avoir des idées au
Ouais.
niveau du gameplay pour profiter du côté aérien du jeu, quoi.
Et moi j'attends aussi de pouvoir jouer cette relation entre les deux personnages principaux. Je pense que ça peut être très très intéressant. Et le dernier que j'attends, peut-être une petite surprise, c'est Alan Wake's American Nightmare. Ouais, c'est assez surprenant.
C'est beau l'optimisme.
Pourquoi? Alors, c'est bah, simplement parce que j'attendais une suite à Alan Wake, et a priori, ça a l'air d'être vraiment la suite d'Alan Wake. En fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est la nouvelle direction qui a été prise pour cet épisode qui ne sortira que sur Xbox
Ouais.
Live Arcade et Steam, a priori. Donc voilà, c'est la nouvelle direction en fait qui a l'air d'être vraiment plus sur l'action et sur le côté un petit peu over the top des films des années 80.
Ouais, d'un côté, je veux pas faire l'avocat du diable, mais Alan Wake était déjà très orienté action quand même. Hein. On est d'accord, c'est pas Silent Hill.
Ah non, non, mais dans Alan Wake, il y a quand même une ambiance de départ qui est beaucoup moins folâtre que dans American Nightmare.
Ouais.
Et c'est là où j'ai un petit peu peur que la série, enfin que la série, que l'univers soit perdu dans American Nightmare, c'est-à-dire que on a vraiment plus l'impression de voir un film de Tarantino plus que quelque chose d'inspiré des Stephen King, quoi. Donc
C'est
ça me
vrai.
gêne. Notamment parce qu'on a vu une phase de gameplay de 10 minutes sur le mode arcade de cet Alan Wake, et là c'est un mode survie où vous avez un compte à rebours avant le début du jour où Alan Wake doit survivre tant bien que mal à des vagues d'ennemis comme ça se fait de plus en plus de nos jours. Et moi ça me fait un petit peu peur parce que bon, on n'a rien vu évidemment de l'histoire puisque...
Moi, celui ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il communique sur ça, en fait. Parce que,
Moi.
je veux dire, ça, ce genre de mode, sérieux, c'est le mode Horde, enfin, c'est des trucs super basiques qui dans les jeux, je vois pas l'intérêt de communiquer là-dessus en premier. S'ils veulent vendre le jeu avec ça, ça va être compliqué, hein.
En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vendre le jeu sur le fait que c'est un jeu peut-être moins, comment dire?
Sérieux?
Ouais, voilà. Et moi, ça me fait peur parce que justement, j'ai l'impression qu'ils s'aliènent un petit peu de la base des fans, du support originel, quoi. Et donc c'est pour ça. Moi, je l'attends parce qu'évidemment, c'est un Alan Wake et j'attends bien évidemment la suite. J'ai vraiment, vraiment très peur que ça soit quelque chose de tout à fait autre, en fait. Donc bon, c'est pour ça que je le mets un petit peu à part de ce top 5, parce que voilà, ça reste un point d'interrogation quand même.
Alors, moi, je me suis pas compliqué la vie, hein. J'ai dépassé les 10. Hein,
t'as triché.
Non, je triche pas. C'est toi qui as décidé de te limiter. Moi, je me limite pas. Il y a trop de jeux, j'attends que je te dise. Donc, je vais commencer par un petit jeu indépendant. Enfin, petit dragon, comme j'ai l'habitude de dire. Ça s'appelle Legend of Grimrock. Je vous invite à aller sur le site pour voir la vidéo. Qu'est-ce que c'est, Legend of Grimrock? Alors, c'est un RPG, mais attention, c'est un RPG old school. C'est-à-dire que c'est un RPG qui s'inspire un peu de ses grands ancêtres qui s'appellent Lanzafleur, Ultima, Dungeon Master, etc. Vous savez, ces jeux à la première personne dans des donjons interminables, bah c'est ça. C'est ça, Legend of Grimrock. C'est un jeu à la première personne dans un immense donjon où vous allez gérer votre équipe avec des graphismes modernes. Par contre, c'est très joli. Je vous invite à aller le voir. C'est très intéressant à voir, en fait. Quand on pense qu'à l'époque, ce genre de jeu existait à cause des limitations techniques, là, t'as des mecs aujourd'hui qui, avec un moteur 3D, sont obligés de se compliquer la vie pour reproduire les limitations techniques de l'époque. Je trouve ça, c'est... Parce que, mine de rien, tu vois, c'est un gameplay particulier. Je sais pas si t'as joué à ces jeux, toi. C'est les jeux en première personne où les personnages avancent case par case et tout. Où t'as un petit bouton caché sur un pan de mur et tout. Il faut bien regarder, clac. Alors par contre, bon, je vous préviens, c'est en temps réel. Hein, ça lorgne plus du côté de Lands of Lore que de certains autres jeux. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'attends vraiment avec impatience. Un jeu qui respire bon l'old school, qui est très joli, qui a une direction artistique qui a tombé par terre. La musique est géniale. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je voulais vous parler de Catherine. Alors Catherine, c'est le jeu que j'attends toujours, j'arrête pas d'en parler. Donc Catherine, c'est ce jeu qui parle de l'adultère. Alors c'est très spécial, hein, un jeu qui parle de l'adultère et qui en même temps est un puzzle game aventure. Enfin, c'est...
Ouais. Enfin, c'est déjà un jeu sur ce sujet-là, c'est concept. Hein.
Ouais, un jeu en plus qui sort à la Saint-Valentin, n'est-ce pas?
Ouais.
En tout cas, bon, on a suffisamment parlé, un jeu j'attends avec impatience. Ensuite, Age of Easy Cadence. Alors ça, messieurs, dames, c'est le RPG qu'il va falloir surveiller en 2012. Si vous êtes adepte de jeux de rôle sur PC, si vous avez aimé Fallout, c'est le jeu qu'il va falloir suivre. Alors c'est un peu un Fallout-like, pas dans l'ambiance, mais dans les mécaniques de jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu vraiment où la parole va autant compter que les actes. Et c'est un jeu, grosse originalité, qui se passe dans la Rome antique.
Ah.
Et ça, c'est un cadre qui est sous-exploité, mais même pas que dans les RPG, j'ai envie de dire. Hein. D'une manière générale, c'est un cadre vraiment qui n'est pas exploité du tout. Et donc, bah voilà, vous allez jouer un mec largué dans la Rome antique, il va falloir vous en sortir parmi des tas de factions, parce que, donc, vous avez compris le titre, bah ça va vous parler de la décadence de Rome, et donc, va y avoir du complot dans tous les coins, ça va se tirer dans les pattes et tout, donc ça promet d'être passionnant. Et en tout cas, un jeu qui se passe dans la Rome antique, voilà quoi, c'est rien que ça, ça donne envie, quoi.
Ouais.
Et je vous invite à lire les forums du studio, ils font une news chaque mois. Vous allez voir, il y a des retours de bêta-testeurs qui racontent ce qu'ils ont vécu dans le jeu, etc. Ça donne vraiment, vraiment très envie. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est le RPG que j'attends le plus en 2012. Et c'est un RPG indépendant. Comme quoi, l'indépendance,
ouais,
ça fait du bien. Ça permet d'avoir des jeux un peu frais comme ça, tu vois, qui sortent un peu des sentiers battus. Ensuite, alors ça, c'est pas du tout indépendant. Hein. C'est un jeu de nos amis de From Software. Ces messieurs qui ont fait ces petits jeux qui s'appellent Demon's Souls et Dark Souls. Mais ça, c'est une série plus ancienne qui est très connue chez les amateurs de mecha. Ça s'appelle Armored Core. Et oui, le cinquième épisode d'Armored Core va bientôt débarquer. Et moi là, je n'en peux plus l'attendre parce que c'est le premier Armored Core qui proposera enfin un vrai mode coopération. Ils ont profité vraiment de leur expérience sur Dark Souls et Demon's Souls. Et moi, j'ai hâte, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de customiser mon mecha. J'adore ça, moi. Passer 3 heures dans des menus à customiser un mecha pour ensuite partir à la bataille, vraiment. C'est mon dada. J'adore ça. Donc, j'attends avec impatience. Je bave là. c'est vraiment... j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, dans le top 5, parce que ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, mais enfin, le top 5, il s'arrête là, je vais vous parler de Dishonored. Alors, un jeu français, hein, Cocorico, Dishonored, c'est ce jeu d'Arkane. Alors Arkane, qu'est-ce que c'est? Arkane, c'est Dark Messiah. Pourquoi j'attends ce Dishonored? Déjà parce que derrière il y a le créateur de City 17 au niveau du design, donc c'est vraiment un design très particulier. Donc j'ai regardé vraiment la direction artistique. Moi je sais pas pour toi, mais moi je suis fan de la direction artistique. Enfin non, disons que je suis plus partagé quand même. Disons que les personnages à la fable, parce que ça ressemble à la fable quand même, je trouve. Hein. Je sais pas pour ce que t'en penses, mais autant les personnages à la fable, je trouve ça sympathique, mais je suis pas sûr que ça serve le jeu. Parce que je trouve que ça contraste assez avec les décors, en fait.
Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, on peut pas y retirer le fait qu'il a vraiment une identité visuelle très forte. Mais ce qui m'attire surtout, contrairement à Deus Ex Human Revolution, ce sera un vrai jeu à la première personne. Il y aura du body awareness comme je les aime. Et en plus, quand les développeurs te disent que leur inspiration principale, c'est Tiff, bah voilà, quoi. Je veux dire, Tiff, tout est dit. Si ça, c'est leur inspiration principale, ben, banco, je suis tout de suite. Il n'y a aucun souci.
Ouais.
Bref, ça, c'était mon top 5. Et maintenant, bon, on va passer vite fait sur les autres jeux qu'il y a derrière. Bon, Final Fantasy TF-Zero, je vous en ai déjà parlé. C'est le Final Fantasy le plus ambitieux depuis ces dernières années pour moi. Parce que bon, voilà quoi, un jeu qui a l'air vraiment d'avoir une narration forte, il propose un jeu stratégie, une vraie carte, une vraie map monde, merde, putain les mecs, une vraie map monde quoi, j'ai la larme aux yeux là, j'en peux plus. Vraiment, ça a l'air le Final Fantasy le plus ambitieux qu'ils ont fait depuis très très longtemps chez Square Enix, c'est sur PSP, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, la direction artistique est vraiment, elle déchire. Le ton a l'air très mature. Bref, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Ensuite, Gravity Days. On vous en avait parlé avec Mordrain.
Ouais.
Alors, Mordrain, un petit mot peut-être sur Gravity Days.
Bah écoute, Gravity Days, c'est un jeu qu'on a découvert au TGS qui sortira sur PlayStation Vita le jour du lancement, en fait, en Europe. Et ça, c'est déjà bien. Parce qu'en fait, l'air de rien, c'est un des jeux qu'on attend le plus du lancement de la PlayStation Vita avec Uncharted. Et comment dire, c'est un jeu où on joue évidemment avec la gravité, comme son nom l'indique, avec un comment dire, un design assez stylé, avec
Japanese et tout, ouais. Vraiment très classe quoi, avec c'est... tout le shading, c'est ouais. Vraiment
En tout cas, enfin nous, enfin à nous deux, ça nous avait vraiment plu, ça nous avait accroché l'œil en tout cas au moment du TGS.
Moi, ça m'a d'autant plus accroché l'œil qu'au niveau des teintes, des couleurs choisies, de l'ambiance, ça me faisait vraiment penser au Shin Megami Tensei, etc. Une série que j'apprécie beaucoup. En tout cas, moi, c'est un jeu prometteur, je pense qu'on sera d'accord, et un jeu qui risque, s'il y a un jeu qui risque de nous tenter sur PlayStation Vita, je pense que ça sera celui-là.
Oui, c'est clair. Oui, c'est sûr.
Ensuite, un autre jeu dont on avait parlé au TGS, à savoir Beyond the Labyrinth. Alors, Beyond the Labyrinth, bah, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui déroule dans un labyrinthe. Ça a l'air d'être un dungeon RPG, tout simplement. Mais c'est un dungeon RPG assez spécial, parce qu'en fait, on joue la caméra, apparemment, et on suit une petite fille qui se balade dans des niveaux comme ça, assez avec une ambiance... je sais pas si tu t'en souviens, mais une ambiance vraiment assez onirique, quoi. Ça a l'air très particulier. Et en tout cas, un dungeon RPG que je vais suivre avec un intérêt certain.
Ouais, c'est sûr.
Après, bon, Bravely Default, hein.
Ouais.
Je pense que
là
deux,
aussi, un jeu 3D.
C'est un jeu qui nous avait marqué tous les deux, je pense.
Ouais.
Alors, certes, on n'avait pas vu beaucoup.
On en a toujours pas vu beaucoup, d'ailleurs.
Bon, il y a juste les histoires de cartes, là. J'espère que bon. J'espère que ça va marcher leur truc.
Oui, non, mais ça marche bien, hein, la réalité augmentée. Pour l'avoir testé, ça marche bien, mais faut juste pas perdre la carte, quoi.
Bon, un jeu qui va jouer sur la réalité augmentée, en tout cas, a priori. Donc c'est vraiment la feature du jeu, je pense.
Oui.
Et bon, soyons clairs, le jeu finalement, on n'en sait pas grand chose. Les rares vidéos qu'on avait eues pas TGS, donc il y avait pas de son. Donc bon, un jeu qu'on va surveiller en tout cas, ne serait-ce que pour son ambiance qui a l'air vraiment exceptionnelle.
Ouais.
Et en plus, bon, quand tu vois le monsieur qui est derrière le projet, hein, Monsieur Matsuno, on compte sur vous. Ensuite, Ryzen 2. Alors ça, Ryzen 2, bah, comme son nom l'indique, c'est la suite de Ryzen. Risen, donc c'est ce RPG ouvert, un peu à la gothique. Et donc Risen 2, ben voilà quoi, je veux dire, un RPG, un monde ouvert qui, avec une ambiance à Pirates des Caraïbes, ça n'en connaît pas des masses, personnellement.
Ouais.
Donc, ah oui, parce que là vraiment, autant le Risen 1, il y avait encore un petit côté Medfan très prononcé, rien qu'au niveau des armures, etc. Autant là, Risen 2, mais vraiment, c'est au niveau des équipements, etc. Ça ressemble de plus en plus à un jeu de pirate, quoi, tout simplement.
Ouais.
Et là, moi, dès que tu me parles de pirate, hein, forcément. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, en espérant que la finition sera là quand même, hein, hein messieurs
ouais.
De Piranha Bytes. Donc, voilà. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais.
Et pour finir, donc, deux jeux. D'un côté, donc, The Legend of Heroes, Trails in the Skies, Shatter 2.
Ouais.
Donc, je vous ai parlé du chapitre 1 en long, en large et en travers. Eh bien, vivement la suite des aventures d'Estelle et Joshua, avec le twist qu'ils nous ont balancé dans la gueule, là. c'est juste pas possible, il faut absolument la suite, je n'en peux plus. Je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe, je veux connaître la suite du scénar, c'est... Voilà. Vivement la suite.
Mmh.
Ensuite, pour terminer, je voulais parler de Rhythm Thief. Rhythm Thief, donc c'est ce jeu avec
ah,
une ambiance un peu jazzy... à la Michael Jackson sur 3DS. Moi, en tout cas, il m'avait attiré de l'œil. Je sais pas pourquoi, Morgan, mais c'est un des jeux vraiment intéressants du Tokyo Game Show.
C'est vrai.
C'est un jeu Sega. C'est un de ces petits jeux japonais, donc avec une ambiance qui est vraiment sympathique. Ça se passe à Paris, en plus, donc voilà, je suis parisien, donc je suis chauvin, hein, excusez-nous. J'espère juste qu'au niveau du gameplay, ça sera assez varié pour que, bon, voilà, quoi. En tout cas, un jeu qu'on attend avec impatience.
Ouais.
Et ben voilà. Quelque chose à rajouter, mon cher Mandren, pour cette future année 2012?
Bah, en tout cas, une année 2012 qui s'annonce excellente, encore une fois, avec une tripotée de jeux, alors que nous, on n'a toujours pas terminé les jeux 2011, ni de 2010, ni de 2009.
Donc, ah bah justement, je pense que ça va être le mot de la fin.
Ouais.
En fait, je pense qu'une grosse tendance de 2012, eh ben, ça va être de finir les jeux 2011. Hein.
Tout simplement.
Ouais.
De jouer à tous les jeux dont on a parlé la dernière fois en disant qu'on voulait absolument y jouer. Mais ça va être cela qu'on va commencer par jouer en 2012.
Donc, messieurs, dames, bonne fête de fin d'année.
Ouais.
Je pense que quand on publiera ce podcast, les soldes de Steam seront terminées, mais
chances,
ouais. on espère pour vous que vous ne vous êtes pas trop ruinés, n'est-ce pas? Jouez bien! Bonne année!
Bonne année 2012!
We wish you a Merry Christmas! Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Ouais!
Ciao!
Salut!